Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
J'adore cette info sur Gallimard. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début à suivre. Eva Rock pour son zapping du lendemain masqué et Jean-Luc Lemoine pour son écran de veille qui aimerait bien retirer son masque, vous allez comprendre. Notre invité n'est pas chez Gallimard mais chez Grasset. C'est Patrick Rothman qui sort Ivo et Georges. C'est son nouveau roman. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, un quintet, je sais pas comment on dit, très jazzy, je demanderai à Eva Rock parce que c'est elle qui va en parler, et un humoriste au cabaret. Bonjour Eva Rock, comment vous dites-vous ?
Quintet.
Un quintet, voilà. Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Monsieur Philippe Vandel.
Jean-Luc Lemoine, au lieu d'ironiser, à quoi vous êtes-vous intéressé pour votre écran de veille ? C'est votre stage qui se poursuit.
Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à un sujet qui préoccupe tous les Français, la vaccination. On a vu des reportages dans tous les JT, mais Éric Brunet a décidé d'aller plus loin sur LCI, faire 2 heures de direct dans un vaccinodrome.
Cette campagne XXL qui démarre aujourd'hui, LCI veut en être le premier témoin, donc nous allons planter nos caméras et nous serons à l'intérieur du Stade de France à partir de 10h.
Et là, je voudrais saluer l'audace, parce que faire 2 heures de breaking news dans un vaccinodrome, c'est comme louer des drones pour filmer une course d'escargot. Tu te dis, est-ce bien nécessaire ? Et c'est là où on a pu admirer le talent d'Éric Brunet qui, après avoir donné les infos essentielles, a réussi à meubler pendant 2 heures.
Les gens descendent par ces escaliers. Vous voyez une dame qui arrive là. Le processus, c'est très simple. Hein. Regardez, on descend l'escalier. Les gens qui ont pris rendez-vous attendent à l'extérieur. Alors, on emprunte cet escalier quand on a pris rendez-vous. Vous arrivez, vous empruntez l'escalier. Vous êtes reçu à un petit guichet juste derrière moi.
Alors, contrairement aux apparences, Éric Brunet ne travaille pas à l'accueil du Stade de France. Hein. C'est juste que 2 heures, c'est long. Et puis, c'est utile de donner ces infos. Quand tu habites dans le sud de la France, tu as envie de savoir quel escalier il faut prendre à 800 km de chez toi pour se faire vacciner. Hein. Éric a aussi recueilli les témoignages de gens venus recevoir leur première injection.
J'imagine venir ici, dans le Saint des Saints, l'endroit où Zidane et les siens ont gagné la Coupe du Monde en 98. Vous étiez ici en 98 ?
À la finale, oui, tout à fait.
C'est pas vrai, vous dites ça pour me faire plaisir.
Et 1, 2, 3, piqûre. Une anecdote comme ça, évidemment, c'est un cadeau pour Éric. Pour ceux qui seraient en première année d'animation de direct où il ne se passe pas grand-chose, enregistrez ça, c'est une leçon.
Vous avez vu ce monsieur tout à l'heure, quelle émotion pour moi, puisque le 12 juillet 1998, j'étais ici même. J'étais particulièrement ému tout à l'heure, d'ailleurs, de voir un monsieur et sa femme se faire vacciner, qui me disait, c'est la première fois que je reviens depuis le 12 juillet 1998. Un monsieur qui était très ému, car c'était la première fois qu'il revenait dans ce Stade de France où il avait assisté le 18 juillet 1998.
Voilà, au bout d'un moment, l'anecdote part un peu en sucette. Hein. La finale est passée du 12 au 18. Mais ouais, mais c'est l'inflation, ça. Entre nous, je sais pas si c'était une bonne idée d'autant insister sur l'analogie entre le fait de se faire vacciner au Stade de France et la victoire de la bande Azizou. Car cette fameuse date, c'est aussi cette phrase mythique de Thierry Roland.
On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais...
C'est superbe. Quel mauvais esprit. Non, je suis désolé, mais c'est pas très engageant. Donc, Éric a réussi à faire vivre ce direct, et franchement, bravo, car on a tout fait pour le déstabiliser.
J'ai entendu un haut-parleur qui disait « Monsieur Brunet, à votre tour de vous faire vacciner. C'est pas moi, mesdames, messieurs, c'est pas moi du tout. Il doit y avoir un homonyme dans le coin. »
Ça, c'est pas de bol, quand même. Hein. Quand on t'appelle pour te faire vacciner alors que t'es en plein direct... Bon, au final, la vraie phrase à retenir de tout ça est venu au bout de 2 heures avec le témoignage de Jocelyne et cette question d'Éric Brunet.
Un beau pompier m'a vacciné, j'ai rien senti.
Vous aussi, vous avez eu un pompier, vous aussi ?
Eh oui, ouais. De la chance.
Ouais. Est-ce que vous avez eu bobo, Jocelyne ?
Non, même pas mal.
Voilà, après 2 heures de direct, on sait maintenant, le vaccin, ça fait pas bobo.
Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain pour votre dernière de ce stage.
Exactement.
Ils sont contents, vos parents, de votre stage ?
Bah oui, mais ils se disent, ça serait bien que je trouve enfin un boulot.
Eva, je me tourne vers vous. L'heure de nous pencher. De vous pencher sur les programmes du soir, le menu du jour.
Bah alors, je vous dois la vérité parce que j'avais prévu d'évoquer l'excellente nouvelle série d'Arte qui s'appelle Bagdad Central, mais aussi des sujets d'envoyé spécial, notamment un sur l'euthanasie. Et puis, patatras, il y a un documentaire diffusé sur France 3 qui a tout fait voler en éclats. Il est intitulé « Refaire des masques, une filière, une industrie ». Et il débute avec un homme qui est au volant d'une camionnette. Il roule, portable à la main.
Vous me faites chier, vous me faites chier. Je te fais les acomptes, je me décarcasse comme un chien. Tu l'auras là. lundi, le tissu. Putain, la machine, elle est cassée. Le mec, sa femme, elle est enceinte jusqu'au cou.
Alors oui, Christophe Lepine, il est très énervé. Son métier, industriel. Et s'il est énervé, c'est qu'en ce mois de mars, confiné 2020, il s'est lancé dans une aventure incroyable qui lui demande beaucoup d'énergie. Relancer l'industrie du textile dans la ville de Roubaix en créant un atelier de fabrication de masques. Roubaix, ville ouvrière sinistrée après la fermeture des usines de textile, justement. Mais Christophe, lui, ben, il y croit.
J'ai cet espoir, cette envie de dire on aura été là pendant la crise, on sait faire, on y arrivera. Et la France sait encore le faire. Même si c'est extrêmement dur et même s'il n'y a quasiment plus rien, c'est cette espèce d'envie du phénix de renaître de nos cendres, quoi.
Et les deux réalisateurs, Benjamin Karl et Ella Serfontaine, ont suivi cette aventure pendant de longs mois, quasiment une année. Une initiative qui a permis de créer des emplois. Hein. Olympe, par exemple, qui est sans formation, elle débarque à l'atelier.
Je faisais rien avant ça. J'avais arrêté l'école et je me disais que je vais devoir travailler au McDo en restauration rapide ou en tant que vendeur dans un magasin. C'est des trucs de base quand on n'a rien à faire, hein. C'est ces métiers-là. Hein. Et j'avais pas envie du tout.
Et Olympe, comme des dizaines d'autres jeunes, mais aussi des anciens, ont retrouvé le chemin de l'emploi. Alors, pas besoin de diplôme. Écoutez bien, la DRH est une femme absolument extraordinaire.
C'était un côté un peu resto du cœur, où genre, on ouvre la porte et on vous prend. Les gens arrivaient avec CV, moi, je n'ai jamais regardé un seul CV, quoi. Pour moi, ça n'avait pas de sens. L'idée, c'était voilà. Qui est le plus en difficulté, puis on te recrute.
Alors, vous assistez à ce recrutement qui n'est quasiment pas un recrutement. Alors, sauf qu'un jour, la commande de masques en tissu, eh bien, elle s'est effondrée, puisqu'on a préféré les jetables venus de Chine. Eh bien, qu'importe, l'atelier s'est reconverti dans la fabrication de t-shirts, de sacs en coton. Objectif, promouvoir le Made in France, montrer qu'ici, tout est possible, que la relocalisation, c'est pas une utopie. Alors attention, pas question d'être angélique, hein, ça requiert vraiment une volonté industrielle et politique, comme on peut le voir dans le documentaire. Mais c'est un bijou d'humanité, ce film. La réalisation, avec l'incrustation d'images d'archives sur Roubaix, justement, ville industrielle, est remarquable, tout comme le montage et la bande-son. Ce film méritait une diffusion en prime time, il faudra attendre 22h50 sur France 3.
Merci beaucoup Eva Rock, à tout à l'heure pour votre indispensable musical, et puis Jean-Luc Lemoyne, merci, puis ça peut vous faire du boulot pour lundi. Merci.
Oui d'accord, ok, très bien.
L'absence de recrutement. Je plaisante évidemment, c'est à 22h50, Eva, vous avez raison, dans un instant, notre invité c'est l'écrivain Patrick Rothman, mais d'abord musique, c'est Feu Chatterton.
Europe 1 Culture Média,
9h-11h,
Philippe Vandel.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville. Du climat subsaharien, on n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Bégayaient tous sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Presque rien,
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Patrick Rottmann.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes auteur et documentariste. On vous doit des films et des livres autour du communisme de mai 68, du goulag, De Gaulle, Mitterrand, les brigades internationales en Espagne dans les années 30. Et il y a un peu de tout cela dans votre nouveau livre. C'est pas un essai, mais un roman. C'est chez Grasset. Ils s'appellent Ivo et Georges. Ils sont en photo sur le bandeau de couverture. Qui sont Ivo et Georges ?
Ivo, c'est Ivo Lévy, qui est plus connu sous le nom de Yves Montand. Je pense que c'est pas la peine de le présenter davantage, comédien et interprète. Et Georges, c'est Georges Semprin, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais qui est écrivain, scénariste d'un certain nombre de films, et qui a une vie totalement romanesque. Les deux ont des vies romanesques, c'est pour ça que j'ai fait un roman avec leur vie.
Et Georges Semprin également, grande figure intellectuelle. Pourquoi Ivo et pas Montand ?
Je pense que les origines de Montand, ses origines italiennes, d'enfants immigrés à Marseille, la famille communiste dans laquelle il a grandi, ont marqué sa vie, ont déterminé même sa vie. Et d'ailleurs, on le voit dans Ivo et Georges, dans mon roman. On voit à quel point son enfance, ses origines italiennes et cette misère a déterminé son existence.
Si je fais un très rapide raccourci, c'est une seule et même personne, évidemment, mais on pourrait dire qu'Ivo était communiste et Montand anticommuniste.
Oui, ça, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'Ivo est né dans une famille communiste, antifasciste italien, qui a, dans cette atmosphère des années 30, qui était le combat en noir et blanc contre le fascisme, et le Montand de la soixantaine, et s'est retourné sur ce jeune Ivo, et s'en voulait d'avoir cru à tout ça. Et en fait, ce livre est le parcours combiné de ces deux, Semprin et Montand, c'est un peu le sismographe de l'évolution de millions de gens qui, à travers le monde, ont cru au matin, ont cru à cette utopie qui s'est révélée meurtrière du communisme et qui s'en sont détachés et qui sont passés des illusions lyriques de la jeunesse aux illusions déçues.
Ils ont des parcours tous les deux différents, plus que différents, parfois inverses. Montand a été complexé toute sa vie de ne pas avoir fait d'études, à la grande différence de Georges Semprin. Également de ne pas s'être engagé dans la résistance, contrairement à Semprin, justement, qui a arrêté par la Gestapo, ce que j'ignorais alors qu'il était en France, et qui a été interné, ce que j'ignorais également, à Buchenwald, dans le camp allemand. Il y est resté combien de temps et pourquoi en a-t-il réchappé ?
Alors ça, c'est une grosse partie du livre, parce que je suis retourné avec Georges Semprin des années après, 50 ans après exactement, au camp de Buchenwald. Donc il m'a fait toute une visite, c'était vraiment un cours d'histoire géographique. Il a été déporté parce qu'il était résistant, parce qu'il était communiste, même il était maquisard, et il a été arrêté,
scène très forte, où il ne parle pas, il est torturé, complètement dingue cette scène.
Torture de la baignoire, c'est pour ça que plus jamais il ne mettra la tête sous l'eau de sa vie, et il est déporté à Buchenwald, et là c'est un moment très important, très peu connu, où il est pris en charge par l'organisation clandestine du camp.
Ce qui le sauve, paradoxalement, c'est le communisme.
Oui, c'est là, il dit, j'ai découvert la fraternité communiste, parce qu'il a été sauvé, tiré d'une mort à peu près certaine, par cette organisation clandestine qui était en grande partie tenue par les communistes. Et d'une certaine manière, il a été mis dans un endroit du camp où on pouvait survivre. Voilà. Et évidemment, ça aussi a déterminé l'importance de sa vie.
Et on peut comprendre un peu son aveuglement, je résume évidemment, puisque quand vous avez été sauvé par des gens, vous avez une foi indéfectible, presque, parce qu'elle a été quand même défaite, mais en eux. Yves Montand, vous racontez que son papa était communiste, il croyait dur comme fer, je choisis à dessein ce terme, il croyait qu'en URSS, les routes étaient en acier, ça vous fait sourire. Et il y a, je résume tout ce livre parce que c'est tellement foisonnant, il y a un passage très très fort, une engueulade, il n'y a pas d'autre mot, entre Yves Montand et son frère Julien, qui le traite de salaud parce qu'il critique le Parti communiste. C'est très très dur cette scène.
Oui, c'est un moment où Montand, après des années où il s'éloigne petit à petit de ce qu'il appelait la famille, c'est-à-dire sa famille et la famille du communisme, rompt au moment de l'intervention de l'armée rouge en Tchécoslovaquie en 68. Et là, il y a une scène de rupture d'une extraordinaire violence entre les deux. Ils vont plus se parler pendant des 20 ans. Ouais. Ça a été et c'est un véritable arrachement. On comprend pas Montand, sa virulence, sa violence des années 70 ou 80. Si on ne comprend pas qu'en fait il parle à son frère qui lui est resté dans la ligne et resté communiste.
Et puis d'un mot, il y a aussi des passages truculents avec une manière de raconter bien à vous. Par exemple, 3 ans avant la sortie du film L'aveu de Costa Gavras, avec Montand dans le rôle principal, scénario de Georges Semprin, vous écrivez « Le grec, le rital et l'espingouin sont chacun un tournant de leur existence ». Je me dis « Waouh ! Heureusement que c'est Rothman qui écrit ça et pas un journal de droite ». Parce que quand même, il faut oser « Le grec, le rital et l'espingouin ».
Oui, parce que quand j'étais petit, on disait ça régulièrement.
Mais, on
les appelait les ritales.
Il y a des choses qui se disent plus.
Évidemment, sous ma plume, j'imagine que personne ne fait de... Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est beau et c'est intéressant. Ces 3 immigrés de la Méditerranée,
bien sûr.
Fait. Un Espagnol, un Italien et un Grec qui se retrouvent ensemble pour en fait faire parmi les plus beaux films du cinéma français.
Le portrait d'Yves Montand, le portrait de Georges Semprin et maintenant le portrait de Patrick Rothman. C'est Hélène Manarino qui arrive dans Culture Média. C'est le portrait inattendu juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Rothman, Ivo et Georges, ce livre, ce roman chez Grasset dans lequel il dresse le portrait de Georges Semprin et Yves Montand. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est l'instant du portrait inattendu.
Bonjour Patrick Rothman.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous.
Il y en a beaucoup, hein.
Oui, ben j'arrive. Patoche, Patou.
Oh non.
Comme pouvez vous appeler votre maman. Vous êtes quelqu'un d'assez pudique, secret. Vous n'aimez pas trop parler de vous. Vous aimez mettre les autres en valeur, vos personnages, les histoires. Alors on va bousculer un petit peu tout ça ce matin. L'enquête a été menée. Vous auriez aimé, être réalisateur de cinéma. Scénariste, vous l'êtes, oui. Alors ce matin, je vous propose de vous mettre dans l'impôt d'un cinéaste, justement, et de réaliser le film de votre vie. Commençons par les premières scènes, les premières images, celles de votre enfance, jamais sans vos Dinky Toys, ces petites voitures que vous collectionniez. Vous lisiez Tintin, pensiez souvent au foot, très souvent. La bande originale de vos scènes d'enfance est marquée par Brel, Brassens, Beethoven et surtout Yves Montand. Vous les écoutiez sur un appareil assez gros. Chez vous, pas de télé, ni de radio. La première fois que vous avez pu écouter une émission de radio, c'était en 1964, sur un petit transistor pour suivre les Jeux Olympiques.
En classe.
En classe ?
En classe.
Vous écoutiez la radio en classe ?
Oui, dans le fond. Hein.
Pardonnez-moi, je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent en classe. Ah non, il n'y a pas de classe en ce moment, mince, pas de chance.
Hélène. Sportif dans l'âme, à 9 ans, vous séchiez les cours pour aller jouer au foot au stade d'Hermont. Autonome, vous avez appris à lire tout seul à l'âge de 4 ans, en vous mettant au fond de la classe de votre maman, puisqu'elle était institutrice. Patrick Rothman, continuons votre film avec quelques péripéties, comme ce jour à l'âge de 7 ans, où vous avez fumé vos premières cigarettes. Vous avez été tellement...
C'était un cigare.
Non. Un cigare. Mais vous avez été très malade, quand même, il faut le préciser.
Il y a une morale.
Changeons de prise de vue, déroulons la pellicule et passons au scénario de votre vie aujourd'hui. Père de famille, papa poule, vous répétez souvent cette phrase à vos enfants, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir, pour persévérer. Des enfants qui vous ont offert la plus belle scène de film possible. Lors de votre mariage, votre fils Paul, âgé de 7 ans, est allé voir le maire, vous étiez assez surpris, il lui a dit « Je vais chanter une chanson ». Et dans la salle, vous avez pu entendre une petite voix dire « Et moi ?» C'était sa petite sœur de 5 ans,
oh non,
qui voulait aussi chanter avec lui. Vos deux enfants se sont mis sur l'estrade et ils ont chanté ensemble cette chanson.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le...
Je vous laisse dire, Yves Montand. Yves Montand, que vous avez en plus bien connu et que vous aimiez beaucoup. Vos enfants que vous emmeniez au parc après l'école, organiser des pique-niques, aller au musée, surtout partir chaque été en voiture, découvrir un pays. Voiture, car votre plus grande phobie, c'est l'avion. Vous avez été capable de ne pas aller chercher un prix,
non,
justement, quand il était trop loin.
C'est vrai.
C'est vrai, oui.
Consciencieux Patrick Rothman, vous travaillez vite sur plein de projets en même temps, tout est carré dans votre tête et surtout il n'y a jamais d'horaire. Vos passions, toujours l'écriture, le cinéma, collection de petites voitures, les tractions. Sportif toujours et grand supporter, vous êtes incapable de rater un match de foot de l'équipe de France. Vous aimez faire à manger pour les personnages principaux de votre vie, c'est simple, vous cuisinez tous les jours, vous expérimentez tous les ustensiles, vous avez beaucoup de livres de recettes, vous faites les courses. Ce qui peut vous faire chavirer un baba au rhum ou un Saint-Honoré. Bon vivant, généreux, cuisiner pour les autres, les recevoir, jouer avec vos amis à la pétanque en vacances, jusqu'à pas d'heure, refaire le monde. Vous êtes un passionné de lecture, vous lisez 3 à 4 livres par semaine. Vous regardez également beaucoup de séries, une préférence pour une série israélienne d'ailleurs, Faouda. Alors Patrick Rothman, vous aimez raconter l'histoire, la mettre en valeur, la comprendre. On aime aussi connaître la vôtre, vous réalisez de grandes choses, qui fait de votre vie un film authentique.
Merci beaucoup Alain Manarino.
Merci.
Patrick Rothman, réaction ?
Presque tout est exact, vous êtes bien informé.
Elle est comme vous. Elle travaille beaucoup. Quel prix vous avez raté ? Enfin, qui sont toujours dans les cartons quelque part et que vous n'êtes jamais allé chercher ?
C'était un Emmy Awards International pour un scénario d'un film que j'avais fait pour Canal, d'ailleurs Nuit Noire. Et je suis pas allé à New York.
Je pense aux gens qui nous écoutent qui disent si j'avais un Emmy Awards, je peux dire que j'y serais allé à la rame sur une barque.
Pour être tout à fait complet, juste avant, avec ma famille, on a eu un accident d'avion. Ah. Plus exactement, le réacteur s'est enflammé au départ. On a atterri dans des conditions assez catastrophique, et pendant des années, je n'ai pas pu prendre l'avion.
Votre vie est vraiment romanesque. Alors, Faouda, c'est quoi, en deux mots ?
Faouda, c'est une série israélienne absolument formidable.
Qui raconte quoi ?
Qui raconte l'action d'un groupe du Mossad, enfin, qui agit dans les territoires occupés. Donc, c'est pas du tout caricatural, manichéen, les bons Israéliens, les mauvais Arabes. Au contraire, on voit toutes les contradictions de ces hommes qui luttent dans des conditions extrêmement difficiles, qui essayent de choper les terroristes. C'est extraordinairement bien fait et réaliste et haletant.
Merci beaucoup Patrick Rothman. Je dis merci, mais vous restez avec nous. On a encore plein de choses à vous montrer ou faire entendre. On va entendre du jazz. Je dis merci Alain Manarino. Je dis bravo. Je dis
merci.
À demain.
Moi,
Culture Média continue. C'est Eva Rock qui va nous faire découvrir un album de jazz très fraternel.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Rothman qui signe chez Grasset ce roman Ivo et Georges. Ça raconte les vraies vies romancées, mais elles sont déjà extrêmement romanesques, de Georges Semprin, grand intellectuel espagnol et grand ami d'Yves Montand. Yves Montand, dont le prénom était Ivo Livi. Vous parlez de jazz, vous racontez Yves Montand, jeune chanteur pendant l'occupation. On est dans les années 40 à Paris. Vous écrivez ceci sur lui. Chanté en plein Paris sur des rythmes venus d'outre-Atlantique, alors que la musique de jazz est considérée par l'occupant comme décadente, n'échappe pas aux feuilles de chou de la collaboration. Ça aurait pu mal tourner pour lui, ce que vous racontez, et encore plus fort, je découvre en vous lisant qu'on jouait du jazz dans le camp de concentration de Buchenwald. Comment est-ce possible ? Il y avait un orchestre ?
Il y avait un clandestin. Ouais. Il y avait un orchestre clandestin.
Non, mais clandestin, pardon, mais la musique, ça fait du bruit.
Oui, mais ils s'enfermaient dans une pièce. Vous pouvez voir, c'est un camp particulier, Buchenwald, où je vous disais tout à l'heure, il y avait une organisation clandestine qui gérait un peu ce camp. Les SS rentraient très très peu dans le camp. Et ils récupéraient avec des instruments de musique qui arrivaient, avec les déportés qui arrivaient, et un orchestre avec des jazzmen formidables. Et le dimanche après-midi, parce que c'était le seul moment où c'était possible, puisqu'il n'y avait pas de travail ce jour-là, ils se retrouvaient pour écouter et jouer du jazz. Et c'est très beau parce que Semprin retourne à Prague peut-être 40 ans après, et il retrouve un de ses... L'homme qui organisait, c'était un Tchèque qui organisait cet orchestre. Donc, un des intérêts de ce roman, c'est de raconter cette vie souterraine, cette vie clandestine dans le camp, qui est très très peu connue et qui a permis, grâce à cette organisation, de sauver beaucoup beaucoup de monde, dont évidemment Georges Semprin.
Eva Rock, je me tourne vers vous, vous êtes de retour, mais c'est beaucoup plus joyeux. Mais c'est un album de jazz pour lequel, Eva, vous avez eu un coup de cœur.
Exactement, Philippe. Je ne pouvais pas imaginer, Patrick Rothman, que vous soyez insensible à cette musique-là, en vous intéressant autant à Yves Montand. Et j'ai effectivement eu un coup de cœur pour un album intitulé Brotherhood. C'est l'œuvre de Stéphane et Lionel Belmondo. Ce sont deux frères, deux enfants du Sud, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et de l'affection. Le premier est trompettiste, le second saxophoniste, et depuis 10 ans, il n'avait pas sorti un opus, et les voilà en quintette.
Précise, parce que vous me l'avez dit, ils n'ont rien à voir avec la famille Belmondo, donc pas la peine de se poser la question que tout le monde se pose. En revanche, cette question, est-ce que ce sont des créations originales ou des reprises, Eva?
Alors, ce sont que des créations originales. Ce premier morceau que vous venez d'entendre s'appelle Wayne's World, c'est en hommage au saxophoniste Wayne Shorter. Et d'ailleurs, et c'est le cas pour 3 autres morceaux, Lionel Belmondo les a créés en s'inspirant de la méthode de Bach pour l'art de la fugue. En fait, à chaque lettre correspond une note de musique, et le musicien s'est donc servi des lettres du prénom de Wayne Shorter pour ce titre-là en question, et il le fait ensuite avec Bill Evans par exemple. Cet album est un hommage aux musiciens qui les ont inspirés depuis des années, donc je vous le disais, Bill Evans, mais aussi John Coltrane et tant d'autres. Et c'est aussi, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, un exercice d'équilibriste formidable. Brotherhood, en fait, a cette qualité de mettre en avant ce collectif, ce quintet, tout en respectant les individualités, tout en respectant chaque musicien qui étale son art. Et finalement, ils se répondent. Oui, les musiciens se parlent. Écoutez cet extrait de Prétexte. Un truc qui est génial avec le jazz, c'est que vous pouvez faire l'effort d'écouter instrument par instrument. Ouais. Votre oreille va s'habituer et vous allez vous apercevoir de l'harmonie qu'il y a entre tous ces instruments, et c'est absolument extraordinaire. C'est un quintet qui est donc formé par les frères Belmondo, Stéphane et Lionel, et avec, il faut citer quand même les 3 autres, l'incroyable Eric Lénini au piano, Sylvain Romano à la contrebasse et Tony Rabesson à la batterie. Alors ces 5-là se connaissent par cœur, ils s'aiment, ils jouent ensemble depuis des années. C'est cette alchimie qui transpire de chaque morceau. Et puis, il y a le dernier morceau de l'album, écrit par Stéphane Belmondo, pour Yvan Belmondo, leur père, leur mentor, qui était saxophoniste, qui leur a donné goût au jazz et qui est décédé en décembre 2019. Alors c'est peut-être ça le pouvoir de la musique, c'est d'avoir une émotion quand on écoute quelques notes comme ça. J'avoue, j'ai pleuré en découvrant Song for Dad, c'est le titre de ce morceau. J'ai repleuré en écoutant une nouvelle fois et je suis au bord des larmes, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que cet album est absolument lumineux, qui respire parfois un peu le sud de la France que j'aime tant et qui n'attend qu'une chose, c'est de vivre sur scène. Ça s'appelle Brotherhood, c'est l'œuvre du quintet de Stéphane et Lionel Belmondo et il est édité chez B-Flats Recordings. Patrick Rothman, je ne peux pas imaginer que vous n'aimez pas le jazz.
J'adore le jazz. Je travaille en écoutant du jazz.
C'est ce que j'allais vous demander.
C'est vrai? Oui, moi je suis un fan d'Oscar Peterson et Tony Flanagan, je veux dire le piano jazz. Mais pour revenir à notre petite affaire, à propos de Yves Montand, c'est l'orchestre c'est le premier qui a formé un orchestre avec des jazzmen après la guerre et des gens qui étaient extraordinaires comme Hubert Rostin, Henri Crolla, qui appris la guitare avec Django Reinhardt, qui avait ce son Django, que tout le monde appelait Mille Pattes, tellement il était habile de sa main, et qui était un musicien extraordinaire, et évidemment Bob Castella, qui était un pianiste de jazz absolument exceptionnel. Donc il avait un orchestre de jazz absolument formidable. Il y avait ce son de récital de Montand, où il pouvait chanter Prévert,
c'est
et sur avec des musiciens de jazz.
Sûr.
C'était comme une alchimie assez exceptionnelle.
Ouais, c'est ce qui fait que la musique de Montand, là je donne mon avis, n'a pas vieilli.
Oui.
Parce que c'était jamais
c'est
dans
vrai,
la facilité, dans
vrai,
la simplicité. Il y avait tout le temps une dimension supplémentaire et j'avais jamais fait le lien avec le jazz. Merci beaucoup Patrick Rodman. Je vous dis merci, mais pareil, vous restez avec nous.
Oui.
Eva Rock, je vous dis à demain.
Oui, mais je reste pour écouter Louise.
Quel bonheur. Louise Bernard est là, Culture Média continue. À tout de suite, on marque une courte pause. Ce sera en musique avec le duo Hamson Ellie.
Can I be real with you? I wanna see if you would go south with me. If I lit up the dark, see us for who we are, would you come with me? I'm not looking back, I'm falling. You're the sunshine setting for my mind. I'm there again. Dum, da-dum, da-dum. Dark nights, velvet in your eyes. We're here again. Dum, dum, da-dum. You're the sunshine setting for my mind. I'm there again. Dum, da-dum, da-dum. Dark nights, velvet in your eyes. We're here again. Dum, dum, da-dum. If I light up the dark, see you for who you are, will you feel me? You're the sunshine setting for my mind. I'm there again. Dum, da-dum, da-dum. Dark nights, velvet in your eyes. We're here again. Dum, dum, da-dum. You're the sunshine setting for my mind.
Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Rodman, on savait qu'il a eu du talent d'écriture, du talent de documentaire. On découvre que c'est un fin connaisseur de musique et spécialement de jazz. Et avec nous, Louise Bernard. Rebonjour Louise.
Rebonjour.
Et ce matin, on parlait de spectacle. Vous nous parlez de l'initiative de la troupe de Madame Arthur pour faire vivre leur ou son cabaret.
Oui, c'est une institution à Paris, hein, le cabaret de Madame Arthur, une scène mythique de Montmartre avec ses créatures. Ce sont des artistes travestis qui chantent dans des tenues de scène plus fantastiques les unes que les autres. On y passe les soirées les
plus folles, les plus festives, croyez-moi. Enfin, on y passait, car évidemment, le cabaret est fermé à cause du virus. Seule solution alors, le live streaming, comme beaucoup d'artistes, c'est-à-dire se produire en direct sous l'œil d'une caméra qui retransmet aux internautes derrière leurs ordinateurs. Chaque jeudi, le cabaret retrouve ses couleurs vives, ses paillettes et ses plumes. Une heure de spectacle, des reprises de chansons françaises bien souvent, comme la Compagnie Créole, version Madame Arthur.
Les parents qui sont morts de rire. Je regarde la tête des mâles, morts de rire. On est en train de les voir.
Mais oui, c'est ça, c'est qu'on les imagine derrière notre écran, de les regarder comme ça doit être bizarre.
Exactement. Et les créatures ne sont pas seules. Il y a un invité chaque semaine, un invité qui choisit son répertoire. Pour Bérangère Krief, c'était Patricia Cass, par exemple. Et ce soir, c'est au tour d'un autre humoriste, Tristan Lopin, qui a choisi Barbara. Chanteur n'est donc pas son métier, mais il va s'y mettre.
Je ne vais pas jouer de sketch ni rien. Vraiment, le but, c'est que l'artiste invité s'imprègne de l'univers de Madame Arthur. Mais il y a une mise en scène qui a été faite, en tout cas, pour créer une petite histoire quoi, autour des chansons de Barbara et créer un espèce de fil conducteur, évidemment. Ouais. Il s'avère que je vais être un petit peu l'enfant terrible de la Madame Arthur et qu'au-delà d'être un invité, je vais surtout être un poids, une charge dont ils vont être obligés de s'occuper, quoi.
Donc il y a une sorte de scénario.
Oui, en fait, il y a des liens entre les chansons, des petites scénettes. Hein. Tout un spectacle créé très vite, en 48 heures. C'est moins chaleureux que quand le public est dans la salle. Mais ces spectacles virtuels permettent quand même à la troupe de continuer de travailler ensemble. Fabrice Laffont, le directeur du lieu.
Le lien avec le public, pour être honnête, il est quand même plus ténu que quand on travaillait en salle. Hein. C'est-à-dire, finalement, au fil du temps, on a quand même l'impression que c'est plus une nécessité pour nous qu'une nécessité pour le public. Moi, j'ai pressenti qu'un an sans travailler ensemble, ça allait nous abîmer assez profondément. Donc, j'avais envie qu'on continue à travailler, oui, pour le moral, pour le désir de continuer à faire de la création.
Et évidemment, les ingrédients restent les mêmes, du burlesque, des costumes, du maquillage qui vous en mettent plein les yeux. Et de l'humour, évidemment, grâce aux invités, notamment comme l'humoriste Alex Ramirez, qui a présenté les lieux à sa façon.
Un cabaret, c'était un lieu où les gens venaient, mais ça c'est le monde d'avant, hein, venaient pour, et alors là, accrochez-vous quand même, s'amuser. Ni plus ni moins. Ça veut dire que vraiment, ils venaient uniquement dans ce but-là. Pas pour du travail, pas pour des distanciations sociales. Et alors, les gens venaient manger, riaient, embrasser des inconnus. Je vous demande un gros effort d'imagination. Là, vraiment, on est dans la science-fiction.
Voilà, il faut l'imaginer seul dans ce cabaret. Donc, humour et véritable effort d'esthétisme pour la vidéo. Ce n'est pas seulement un plan fixe sur la scène. On se balade dans le cabaret grâce à la caméra. Cabaret aux multiples couleurs chaudes ou vives, du rouge, du jaune, du violet et le vert, ça peint des murs et des banquettes en velours. On n'a qu'une envie, c'est d'être dans la salle. En attendant, on se console derrière son ordinateur sur le site du cabaret de Madame Arthur. Vous pouvez donc acheter un billet. C'est selon vos moyens, 5, 10 ou 20 euros. Et vous avez aussi accès au replay des soirées précédentes. Ce soir, c'est donc Tristan Lopin qui est invité pour chanter Barbara avec Charlie Vaudou, Odile de Mainville et Martin Poppins. C'est à 21h.
En voiture, attachez vos ceintures. En voiture, pour la bonne aventure chez Madame Arthur.
Patrick Rothman, ouais. C'est votre genre de beauté, le cabaret?
Pas vraiment, mais en fait, les cabarets, il y en avait des dizaines et des dizaines dans l'après-guerre. D'ailleurs, pour revenir à mon roman, ouais. Ivo et Georges, quand Montand monte à Paris en printemps 44, il est recherché par le STO, donc sous le nom d'Ivo Livi. Pourquoi
Service Ivo du travail obligatoire, c'est qu'on est obligé d'aller travailler en Allemagne, j'explique pour les plus jeunes.
Oui, pardon, absolument. Et donc, il est recherché sous le nom d'Ivo Livi, son vrai nom. Et donc, il monte à Paris, il chante à l'ABC sous le nom d'Yves Montand. Et il a des multitudes de contrats, parce qu'il a un succès fou, tout de suite, là, ce jeune homme de 21 ans. Et il va de cabaret en cabaret, la nuit, le Beaulieu, etc. Imaginez qui fréquente les cabarets au printemps 44.
C'est la commandant tour.
Les Allemands, les trafiquants de marché noir.
La Gestapo.
La Gestapo française. Et il va de cabaret en cabaret, sans papier, la nuit. Il faut un Ausweis, il a rien du tout. Et avec sa petite valise et son costume, il va de cabaret en cabaret pour chanter devant ce public un peu interlope.
Il est très courageux, il est inconscient ou au contraire, ça le protégeait?
Je pense qu'il est totalement inconscient. Il sifflote même des airs de jazz. Ouais. Il se rend pas compte. Il est tout jeune. Et après la guerre, j'aimerais juste ajouter ça, c'est que les cabarets ont fleuri. Tous les grands interprètes ont commencé dans le cabaret. Ouais. Et je faisais allusion tout à l'heure à Henri Crolla, il était au Schubert, il jouait au Schubert, ce petit cabaret qui est à côté de la Closerie des Lilas, avec sa virtuosité exceptionnelle. Et Georges Champrin allait dans ce cabaret, voilà, où il y avait des très belles femmes, et il...
j'attends la fin.
il ignorait, là, il ne connaissait pas Crolla, mais Crolla va devenir après l'ami et le pianiste, le guitariste de mon temps.
Merci beaucoup. Merci Louise Bernard. On va redire où est-ce qu'on le trouve. Madame Arthur, c'est facile à trouver.
Sur le site internet, exactement.
MadameArthur.fr ou .com et on trouve.
Oui, cabaret Madame Arthur.
Super. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans un instant. C'est la dernière ligne droite de Patrick Dortmann, dont j'ai l'impression qu'il a quelques anecdotes en réserve encore. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Patrick Rothman, écrivain et documentariste, Ivo et Georges, et son nouveau roman, ça vient de sortir chez Grasset, livre qui fourmille d'anecdotes, on ne peut absolument pas toutes les raconter évidemment. Comment vous avez travaillé? Parce que vous avez déjà écrit sur Yves Montand trois fois, si je me souviens bien, vous avez repris toutes vos notes, ou il y a encore du nouveau? Vous avez passé combien de temps à bosser là-dessus?
Avant, c'était des biographies de mon temps. Là, c'est un roman, j'insiste sur ce point, parce que comment j'ai travaillé, il y a un certain nombre de... Je peux dire, répéter la phrase de Boris Vian, « Tout est vrai, j'ai tout inventé ouais. ». Parce que c'est vrai que tout est vrai dans ce livre, mais il y a des scènes dont j'ai été témoin, donc direct, que je raconte. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y a un dîner, il y a une scène, un chapitre où entre les Arthur Miller, Marilyn Monroe, Simone Signoret, Yves Montand... Montand m'a raconté, c'est trop long de dire dans quelles circonstances il m'a raconté ce dîner, mais évidemment je le reconstitue avec des dialogues, etc. Donc c'est un roman où tout est vrai, où il y a d'autres moments où, comme je suis allé avec Georges Champrin et à Buchenwald et à Madrid, sur le Madrid et de son enfance et de la période dont on n'a pas du tout parlé, où il était clandestin en Espagne, qui luttait contre le régime franquiste, membre du Parti communiste espagnol, il m'a restitué des scènes sur le terrain. Je suis rentré dans l'appartement de son enfance, par exemple, ouais, avec lui, où sa mère est morte, et j'ai vu l'émotion qu'il avait.
Mais à l'époque, vous aviez déjà pris des notes?
Je prenais des notes.
Ou est-ce que c'est, vous avez une mémoire pharaonique?
J'ai une assez bonne mémoire, oui.
Tout à fait autre chose, vous avez fait partie pendant très longtemps du cercle d'amis d'Olivier Duhamel, constitutionnaliste, dont on a appris avec le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qu'il avait abusé sexuellement de son frère jumeau quand il était adolescent à la fin des années 80. Les révélations de Camille Kouchner sont sorties en janvier dernier, mais vous étiez au courant depuis 2010 de ces accusations d'inceste. Vous l'avez appris de la bouche de Marie-France Pizier, la comédienne qui était la sœur d'Evelyne, l'épouse d'Olivier Duhamel. Comment vous avez pris et encaissé ces révélations, et en avez-vous parlé avec Olivier Duhamel?
J'ai été ami avec Olivier Duhamel, j'allais dans cette maison, j'ai cessé d'y aller en 1996.
Bon. Donc avant la révélation
15 ans avant. Et donc en fait, Olivier Duhamel, je ne l'ai quasiment plus vu depuis 25 ans. Ouais. Voilà. Et donc j'ai appris cette histoire par effectivement la bouche de Marie-France Pizier, 15 ans après avoir cessé de le voir. Et évidemment, je suis tombé de l'armoire, comme tout le monde. Si vous apprenez qu'un de vos meilleurs amis fait ce type d'acte, vous êtes total...
Mais ma question était, il se passe 10 ans entre la révélation à vos oreilles et la sortie du livre. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez essayé de parler à Olivier Duhamel?
Non,
est-ce que vous avez essayé de parler avec Victor, la victime dont on a changé le prénom, évidemment?
Je ne voyais plus du tout Olivier, donc je n'ai pas eu l'occasion de parler. Mais surtout, Victor, entre guillemets, sa sœur, ne voulait absolument pas que cette histoire soit ébruitée. Et y compris Bernard Kouchner, leur père, qui était prêt à remuer ciel et terre, ils lui ont interdit de faire quoi que ce soit. Et je pense que c'est légitime. Je pense qu'il n'y a que les victimes de ce genre d'histoire qui ont le droit, de la possibilité d'en parler. Au moment où ils veulent et au moment où ils sont prêts à le faire. Donc personne n'a le droit d'interférer et d'aller parler de choses qui les concernent en premier chef.
Il nous reste une minute pour que je puisse vous demander les projets qui arrivent. Je sais qu'il y a une BD qui va sortir.
Oui, il y a une BD qui s'appelle Chez Delcourt, avec Jeanne Puchol, qui a dessiné. Moi, je dessine pas, j'écris le scénario.
C'est déjà pas mal tout ce que vous faites. Une BD qui traite de quoi?
Ça s'appelle Mitterrand et ses ombres, ouais. Et c'est le Mitterrand des années 50. qui est mêlé, le jeune homme, entre histoire de femme, de...
Ça raconte le Mitterrand de la 4ème République que vous aviez fait dans Un homme à histoire.
Voilà, alors ça s'inspire des mêmes histoires, ouais. Et c'est sous forme de BD.
Ça sort dans combien de temps?
Ça sort dans 10 jours.
Entre-temps, il est déjà en librairie, Ivo et Georges, ce roman, c'est aux éditions Grasset. Comme il dit, tout est inventé, mais tout est vrai. C'est signé Patrick Rothman. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Nous, on va se retrouver demain à 9h pour l'émission, évidemment. Nous serons avec l'animatrice Agathe Le Caron pour Bel et Bien. C'est une nouvelle émission entièrement consacrée au bien-être. C'est sur France TV. Et puis la comédienne et chanteuse Lola Dubini pour son nouvel album. Il s'appelle Je te le dis. C'est le titre de l'album. Juste après le flash, je vous l'ai dit, vous allez retrouver Anne Romanoff pour l'émission Ça fait du bien. Il y a Christophe Lamarre qui se prépare. Je vous dis à demain. Très bonne journée sur Europe 1. Merci encore, Patrick Rothman.
Merci à vous.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.